Stuart Wachowicz. Le lait et la nourriture solide de la parole. Le titre de mon sermon d'aujourd'hui est « Le lait et la nourriture solide de la parole ». Au cours des années, il nous est parfois arrivé d'entendre certains individus se plaindre que les sermons ne leur offraient que le lait de la parole, alors qu'ils en attendaient de la nourriture solide. Dans certains cas, il y en a même qui ont abandonné l'Église de Dieu au profit de certains groupes qui, selon eux, leur servaient davantage de nourriture solide. D'autres encore, peut-être même certains parmi nous, qui sont constamment à l'affût de quelques nouvelles vérités excitantes, vont faire circuler des publications émanant d'autres groupes afin de satisfaire la curiosité de certains de nos nouveaux membres qui sont toujours avides d'en apprendre davantage à propos des vérités fondamentales contenues dans les Écritures. Non contents de faire circuler de telles publications, ils iront même jusqu'à prétendre que l'Église du Dieu vivant ne nous sert que le lait de la parole, au contraire de ces autres groupes qui sont présents sur la toile. Ce n'est pas nouveau. Cela me rappelle ce qui s'était passé lors d'une conférence ministérielle à San Diego, où un des ministres s'était inscrit en faux contre une proposition de Dr. Meredith, lequel avait demandé à tout ministre, qui ne partagerait pas notre point de vue sur telle ou telle doctrine, d'exposer ses idées devant notre comité de révision doctrinale avant de commencer à répandre ses enseignements aux quatre vents. Ce qui avait outré ce ministre, c'est le fait que Dr. Meredith ait basé sa décision sur un écrit de l'apôtre Paul à l'endroit des membres de l'Église de Corinthe. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. On devait donc arriver à un consensus basé sur les Saintes Écritures. Cela dit, dans le passé, certains ont accusé Dr. Meredith d'être un dictateur. Pourtant, à mes yeux, cet incident prouve que, loin d'être un dictateur, il était au contraire un homme qui faisait preuve de retenue, en particulier lorsqu'on lui faisait opposition. Ma première réaction, un peu charnelle j'en conviens, aurait été d'inviter ce monsieur à faire ses valises, mais Dr. Meredith s'était contenté de lui demander calmement de le rencontrer plus tard. Hélas, il refusa l'offre et, quelques mois plus tard, il nous quitta pour fonder sa propre petite organisation, se contentant probablement de collecter des dîmes en échange de quelques cassettes, mais sans plus. Plusieurs se joignirent à lui, et, ce faisant, ils se séparèrent de ce noyau qui accomplissait l'œuvre. Ma question est, à qui cela profite-t-il? Pourquoi certains poursuivront-ils de telles voies? Parfois, ce sera parce qu'ils trouveront ces enseignements plus excitants. On dira qu'on a acquis une nouvelle compréhension, une nouvelle vérité. En réalité, la plupart de ces soi-disant nouveaux enseignements n'étaient rien d'autre que des spéculations à propos d'éléments prophétiques, des choses dont ils voulaient entendre parler. C'était un auditoire acquis dont les membres étaient prêts à payer leur dîme à quiconque leur enseignerait ce qu'ils voulaient entendre. Je crois que la Bible parle ici de ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il est question de ceux qui accordent à des spéculations à propos des Écritures une importance qui va au-delà de ce qui peut être prouvé. Par ailleurs, ils vont ignorer quantité d'autres parties des Écritures qui nous enseigneraient des choses autres que la prophétie, des choses qui constitueraient un plus grand défi, des choses plus difficiles. Certes, près d'un tiers de la Bible est prophétique, revêt de l'importance et ne doit pas être ignoré. Cependant, il nous faut exercer de la prudence, lorsque nous nous prononçons sur le sens qu'il faut lui attribuer. Souvent, la prophétie se borne à ne donner que les grandes lignes. D'ordinaire, elle nous permet de savoir ce qui nous attend, mais comme elle est avare de détails, nous ne pouvons généralement pas être trop spécifiques. Et il faut être prudent lorsqu'on veut établir des liens avec des événements contemporains. Pourquoi mentionner cet incident? Eh bien, au cours de mes 44 années dans l'Église, j'ai pu noter l'engouement que beaucoup de gens manifestent pour les spéculations. Cela les amènera à s'enorgueillir de leurs connaissances et de leur compréhension. Ils négligeront alors de se pencher sur d'autres points, tels que le développement du caractère chrétien ou l'importance de la prédication de l'Évangile dans le monde. Cela les ennuiera, et ils vont considérer que c'est pour ceux qui en sont encore au lait. Qui faut-il écouter alors? Si nous nous tournons vers Luc chapitre 21 verset 8, nous y trouvons ces paroles de Jésus-Christ. Luc 21 verset 8. Jésus répondit: « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. » Lorsque Christ prononça ces mots, il voulait dire qu'il y aurait des ministres qui prêcheraient que Jésus était le Christ, mais que leur enseignement particulier serait tout de même une source d'égarement. Ils dispenseraient un certain message, mais celui-ci ne contiendrait pas l'intégralité de l'Évangile et n'exposerait pas non plus tout le but de notre existence. L'apôtre Paul fut inspiré de donner un avertissement que Dieu inspira également à Luc d'incorporer au livre des Actes. Voyons-le dans Actes chapitre 20, verset 29. Actes 20, verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » Dans les jours qui suivraient la mort de Paul, il y aurait donc des faux ministres qui s'introduiraient parmi le troupeau, des ministres à propos desquels il fallait avertir les membres, parce que ceci ne serait pas facile à identifier au premier abord. Si vous êtes une brebis parmi un troupeau du pâturage, et qu'un loup viendrait à passer par là, vous ne manqueriez certes pas de le remarquer. Oui, même une brebis qui n'a pas la réputation d'être particulièrement intelligente aurait tôt fait de conclure que cette fourrure, ses yeux, ses dents et ses oreilles ne sont pas ce qu'on attend d'une brebis. Sa réaction en serait alors une de panique. C'est pourquoi Paul se sentait obligé d'avertir le troupeau que ces faux ministres apparaîtraient déguisés en brebis. En effet, si, à l'époque, certains avaient ouvertement commencé à enseigner la Trinité, l'observance du dimanche et l'abolition de la loi et des jours saints, il aurait été facile de les identifier. Mais nous savons par les Écritures et par l'histoire que l'Église primitive du premier siècle de notre ère, même après l'époque des apôtres, lorsque ces faux ministres étaient à l'œuvre, continuait d'observer le sabbat et les jours saints. On continuait d'enseigner la loi, même si certains faux ministres commençaient à se manifester. L'avertissement donné aux membres n'avait donc pas seulement pour but de les mettre en garde contre ceux qui répandaient des doctrines foncièrement païennes, il tenait tout autant à attirer leur attention sur ceux qui, tout en se disant membres de l'Église, s'efforçaient subtilement de dévier les gens vers de fausses doctrines. Oui, cela débute subtilement. On se laisse envahir par des pensées spéculatives, et bientôt, voilà qu'on se laisse mettre à l'écart de l'œuvre. Cela s'est encore produit à notre époque, et cela fait partie du jeu de Satan, qui s'efforce par tous les moyens de mettre un terme à la prédication de l'Évangile dans le monde. Donc, ne me comprenez pas de travers. Oui, la prophétie doit occuper une place importante à nos yeux. Elle nous fournit un cadre directeur pour ce qui se passe autour de nous et elle nous révèle les étapes qui suivront. Et Dieu veut que nous en soyons informés. Cela dit, souvent, nous n'avons pas assez de détails pour avancer des dates, pour prédire quand Jésus va revenir, ou pour identifier des personnes dont il est prophétisé qu'elles joueront des rôles spécifiques. Exemple, celui des deux témoins, du faux prophète, etc. Ce sont là des choses qui nous échappent pour le moment. Il faudra attendre que Dieu nous les révèle. Parfois, les gens vont même établir de nouvelles doctrines en associant des jours saints à des événements et en faisant des proclamations sans pour autant les prouver à partir des Écritures. Ainsi, il y a un individu qui prétend que la première résurrection aura lieu le jour de la Pentecôte, en dépit du fait que la Bible nous révèle que cet événement se produira le jour de la fête des trompettes, si du moins on l'examine dans son ensemble. D'autres insisteront qu'il faut observer la Pâque au début du 15e jour du mois d'Abib, et non au début du 14e jour. Ils s'efforceront de le prouver par toutes sortes d'associations, mais sans qu'aucune ne soit en rapport avec la Bible. Ils se livreront à toutes sortes de spéculations, tout en refusant de se pencher sur l'ensemble des Écritures. Ce faisant, ils rejetteront non seulement les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi l'exemple de Jésus-Christ. Il est bien évident que Christ avait observé la Pâque au jour convenable et en sacrifiant l'agneau traditionnel. C'est ce que nous lisons dans les épîtres de Matthieu, Marc et Luc. Par exemple, Marc 14, verset 12 nous dit Marc 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Le jour où l'on devait immoler l'agneau pascal, les disciples se rendirent donc auprès de Jésus pour savoir où ils devaient préparer la Pâque. Notez que cela eut lieu 24 heures avant que ne débutent les jours des pains sans levain. La Bible est très claire là-dessus. Il n'y a donc aucune raison d'être séduit, mais les gens vont s'accrocher à leurs idées sans les confronter aux Écritures. Pas étonnant alors que, dans 2 Timothée 4, verset 1, l'apôtre Paul se comporte à l'égard de Timothée comme le ferait un officier qui donnerait des ordres à un subalterne. En fait, c'est Dieu qui avait prophétisé cela à Paul. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'Église de Dieu se doit de prêcher la parole. Prêchons avec force et avec zèle. Prêchons sans relâche par-delà les montagnes et dans les vallées. Déployons tous nos efforts tandis qu'il nous est encore possible de le faire. Quand nous ne le pourrons plus, l'œuvre sera achevée. Cela dit, certains recherchent des choses qui leur paraissent plus excitantes. Veillez à ce que nul ne vous fasse croire que la nourriture solide consiste en de nouvelles vérités, des spéculations et de nouvelles compréhensions. C'est faux. Frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire par cette idée selon laquelle la nourriture solide de la parole consiste en des vérités nouvelles et excitantes. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Alors, qu'est-ce que la Bible veut dire lorsqu'elle parle de lait et de nourriture solide? Il nous faut absolument le comprendre, afin que nous puissions nous prémunir contre les faux enseignements et les attaques sournoises de ces loups qui doivent encore se manifester. Apportons tout d'abord quelques précisions à propos de ce concept de lait et de viande, tel qu'il apparaît dans la Bible anglaise de 1611, la vieille King James. À cette époque-là, le terme « viande » se référait alors à toute forme de nourriture solide, pas seulement à de la chair animale. Ainsi, cela pouvait référer aussi bien à des œufs, du pain ou des haricots verts. C'est d'ailleurs pour cela que dans la nouvelle King James, on a remplacé le terme « viande » par « nourriture solide ». C'est aussi le terme qu'emploie la Louis II. Dans Hébreux 5, verset 6, il est question de Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul y dit, Hébreux 5, verset 6, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. » Permettez-moi ici d'ouvrir une petite parenthèse. Vous notez que Jésus-Christ priait pour ne pas avoir à subir la crucifixion, même au point que sa sueur devienne des grumeaux de sang. Vous est-il déjà arrivé de prier, mais sans obtenir de réponse? C'est arrivé à Christ. Il ne faut pas alors nous imaginer que Dieu ne nous a pas entendus. De fait, Christ obtint une réponse, même si ce n'était pas celle qu'il attendait. Mais il s'inclina devant la volonté de Dieu. La fin du verset 7 dit « Et il a été exaucé à cause de sa piété. » Par là, il faut entendre qu'il a été exaucé à cause de sa façon de vivre, empreinte de respect et de soumission à la voix divine. Nous aussi agissons de même. Et Dieu entendra nos prières. Continuons au verset 8. Hébreux 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. À l'inverse, ceux qui ne lui obéissent pas ne pourront espérer avoir part à la vie éternelle. Verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ici, il dit au peuple qu'il trouve difficile de leur enseigner car ils sont devenus durs d'oreille. Puis il ajoute au verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Or, verset 13, « Quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ici, Paul s'adresse aux Hébreux, qu'il cherche à ramener à l'ordre. Il se sert de l'exemple de Christ pour nous enseigner quelque chose de très important quant à notre survie spirituelle. Ces Hébreux, de toute évidence, avaient été appelés à l'Église depuis un certain temps. La plupart d'entre eux étaient baptisés, mais il leur manquait quelque chose. Comment se fait-il qu'il fallait leur enseigner à nouveau les choses élémentaires de la parole de Dieu? La raison semblait être qu'ils n'obéissaient pas à Dieu. Ils ne mettaient pas la vérité de Dieu en pratique dans leur vie quotidienne. Cela dit, pour ceux qui pensent que la nourriture solide ne consiste qu'à ingurgiter sans cesse de nouvelles vérités et de nouvelles connaissances, cela constitue un problème. Voyez-vous, ces Hébreux avaient besoin de revoir les enseignements de base de l'Église. Comment observer le sabbat? Comment observer les jours saints? Comment éviter les disputes, les conflits? Il leur manquait une vision claire de ces points majeurs. Ils se font dire ici qu'ils ont négligé de laisser la parole de Dieu les guider dans les différentes facettes de leur vie quotidienne. Ils ne se sont pas servis d'elle pour discerner le bien du mal, et pourtant, elle seule permet de le faire. C'est la parole de Dieu, en effet, qui permet de trancher entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que nous lisions au verset 14, où il était dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La parole de Dieu doit être notre guide. C'est selon elle que nous devons régler notre vie, elle qui doit nous aider à lutter contre les influences de Satan, elle qui doit nous aider à discerner ce qui vient de lui. Donc, ceux qui ont encore besoin du lait de la parole n'ont toujours pas appris à se servir de la parole de Dieu pour les diriger dans leur vie. Voici une question cruciale qu'il nous faudra poser. Quels critères Dieu utilisera-t-il pour déterminer si, vous ou moi, nous allons recevoir la vie éternelle? Sur quels critères basera-t-il sa décision? Il nous importe de le savoir. Va-t-il se baser sur vos connaissances en matière de prophétie? Tiendra-t-il compte de votre habileté à gérer des quantités prodigieuses de nouvelles vérités? De notre capacité de comprendre une foule d'enseignements contradictoires que le monde de Satan répand à propos de la Bible? Où serons-nous jugés selon des critères très différents? Sur quoi Dieu va-t-il se baser pour juger si vous méritez la vie éternelle ou, au contraire, la mort éternelle? Relisons Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le terme « fait » tel qu'il apparaît ici dans « homme fait » vient du grec « telios ». Ailleurs dans la Bible, « telios » est traduit par « parfait ». Permettez-moi de me servir de l'exemple de ma femme, même si elle n'est pas encore parfaite. Elle aime acheter des cantaloupes, c'est-à-dire des melons. Quand j'étais enfant, je vivais en Nouvelle-Écosse, et je ne sais pas pourquoi, mais nous n'avions pas de bons melons là-bas. Ma mère en achetait néanmoins, mais il lui était difficile de me persuader d'en manger. Lorsque, plus tard, ma femme se mit à m'en servir, je ne pus m'empêcher de faire la grimace. Mais vous savez, je trouvais les siens bons. Mais il faut dire qu'elle avait un secret. J'avoue que je n'aime pas l'accompagner lorsqu'elle fait ses courses, mais j'ai pu observer son rituel quand vient pour elle le moment d'acheter un melon. Elle va le prendre dans ses mains, l'approcher de son nez, et il semble qu'à l'odeur qu'il dégagera, elle pourra déterminer s'il est mûr à point ou non. S'il l'est, il aura bon goût. Il sera alors sucré, juteux, en un mot délicieux. Tout le contraire de ce que l'on me servait dans ma jeunesse. Ainsi, télios signifie arriver à pleine maturité, mûr à la perfection. Continuons. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Tout ceci correspond à des vérités essentielles, mais une fois que nous les connaissons, il faut s'en servir pour tendre vers la perfection, télios, à l'instar de ceux qui ont acquis de la maturité spirituelle. Comment développer cette maturité spirituelle à laquelle Dieu semble attacher tant d'importance? Eh bien, selon Hébreux 5 et 6, Dieu attend de ceux à qui il a donné la connaissance, des habiletés, ainsi que son Esprit Saint, qu'ils se servent de cette connaissance et de la vérité qu'il nous révèle par sa parole pour développer son caractère saint et parfait. Parfois, les gens vont s'attarder à une expression biblique du type « le lait et la nourriture solide » et ils ne remarqueront pas qu'ailleurs dans la Bible, Dieu formulera la même chose en employant des mots différents. C'est le cas en ce qui concerne la première épître de Jean. Examinons donc ces écritures un peu plus en profondeur afin de voir ce qu'on entend par le lait et la nourriture solide de la parole. Ce sujet que Paul aborde ici est le même que celui que Jean abordera vers la fin de sa vie. Voyons-le dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et nous savons qui gouverne notre monde à l'heure actuelle. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce que Jean veut dire, c'est que ce qui importe le plus dans la vie, c'est de faire la volonté du Père et de réagir positivement à la connaissance qu'il nous révèle. Notez aussi 1 Jean chapitre 2 verset 24. 1 Jean chapitre 2 verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Du moins, si vous vous laissez guider par ses enseignements. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il est ici question du Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. En d'autres mots, vous conduirez votre vie selon la volonté de Dieu. Ceci montre que ceux qui sont appelés doivent se prévaloir des vérités divines de base que Dieu nous révèle en ouvrant notre esprit. Puis, il nous faudra vivre fidèlement selon ses enseignements. Certains cherchaient manifestement à séduire l'Église dès ses débuts. Jean ne cesse de le répéter. C'étaient des individus qui semblaient observer fidèlement le sabbat et les jours saints. De fait, dans la troisième épître de Jean, l'apôtre parle même d'un individu qui avait réussi à s'emparer du contrôle d'une église locale et à en chasser les membres fidèles. Cependant, Jean poursuit en montrant qu'il n'est pas justifié que l'on soit séduit. En fait, et il nous faut le prendre au sérieux, il est clair qu'il nous faudra rendre des comptes si nous nous laissons séduire. La sermonnette l'a mentionné, ce qu'on attend de nous n'est pas facile, et il nous est demandé de lutter avec zèle et passion pour préserver le trésor que Dieu nous a confié. Le monde a tendance à prendre les choses à la légère et avec désinvolture. Mais il ne doit pas en être ainsi en ce qui concerne le projet auquel Dieu nous associe. L'onction dont il a été question au verset 27 faisait référence au Saint-Esprit, cet Esprit qui nous donne la compréhension, à condition que nous nous en servions pour obéir à Dieu. Voyons 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est pourquoi dans Hébreux 5, l'apôtre Paul avait dit que la nourriture solide était destinée à ceux qui se serviraient de leur esprit et de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu pour évaluer ce qu'ils liraient dans les Écritures afin de pouvoir faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous nous en servons pour faire des choix. La vie comporte des choix. En d'autres mots, Paul compare la nourriture solide de la parole à cette faculté qu'a un membre qui possède le Saint-Esprit d'utiliser la loi divine et les enseignements des Écritures pour en arriver à de bons choix. Un tel membre va analyser ce qu'il perçoit autour de lui à la lueur des directives que Dieu lui donne à travers sa loi et sa parole. C'est cela qui lui évitera de pécher et, partant, d'échapper à la mort. Chemin faisant, il développera le caractère que Dieu requiert de chacun de nous. En s'appuyant sur la nourriture solide de la vérité, il ne sera pas tenté de contourner la loi. Il ne recherchera pas de justification pour violer le sabbat ou la loi en général. Il ne suivra pas des sentiers détournés pour se sortir d'une situation épineuse. Mais il fera la part des choses et choisira ce qui est bien. Je me souviens de la définition que M. Armstrong donnait à propos du caractère. Il disait que cela implique qu'on soit capable de discerner le bien du mal, puis de choisir et de faire le bien, peu importe l'effort qui sera requis. Étudier les Écritures et prier pour que Dieu nous guide est la voie que poursuivra celui qui n'en est plus au lait de la parole, mais qui a commencé à prendre de la nourriture solide. Certains, en entendant un sermon où il est question de développer le caractère de Dieu et de maîtriser le péché qui nous entoure, trouveront cela ennuyeux, même redondant, et ils voudront entendre des choses plus excitantes. Pourtant, c'est justement à eux que Dieu dédie ses recommandations de Paul et de Jean. Paul va élaborer sur le thème qu'il a abordé dans Hébreux 6, versets 1 et 2. Précisant ce qu'il nous faut comprendre par l'expression « le lait de la parole », un thème qui est récurrent dans les Écritures. En fait, il en était déjà question dans Hébreux 5, verset 12, si vous voulez bien vous y reporter. Hébreux 5, verset 12. « Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Autrement dit, Paul ne parle pas ici de ceux qui ne sont pas prêts à accepter des notions plus complexes en matière de prophétie ou de nouvelles connaissances. Non, il parle plutôt de ceux qui commençaient à s'éloigner de la vérité pour avoir négligé de mettre en pratique ce qui leur avait déjà été enseigné. Oui, ils commençaient à oublier et à négliger des vérités fondamentales comme la repentance et la foi, la signification du baptême et l'importance de l'engagement qu'ils avaient pris à ce moment-là. Un engagement qui revêtait beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Sans oublier toutes ces autres doctrines que nous défendons. De fait, il poursuit en disant que celui qui fait la sourde oreille aux vérités fondamentales et s'en détourne, risque même de perdre le Saint-Esprit et de se placer alors sur un chemin de non-retour. Notez à ce sujet Hébreux 6, verset 3. Hébreux 6, verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il est évidemment hors de question que Jésus-Christ soit crucifié une deuxième fois. Quand un membre nous quitte, ce peut être pour diverses raisons. Parfois, c'est parce qu'il a subi de fortes pressions, auquel cas, il n'a pas nécessairement abandonné définitivement. Dieu comprend et peut alors se montrer très miséricordieux. Mais il va arriver que certains nous quittent en rejetant tout. Ils perdront alors le Saint-Esprit, et pour eux, il n'y aura alors point de retour. En fait, il n'y aura même pas le désir de revenir en arrière. Ce que Paul mentionne dans Hébreux 5 et 6 donne aux chrétiens la compréhension de ce que Dieu attend de lui une fois qu'il est appelé. Il doit comprendre qu'il lui faut alors bâtir sur la compréhension de base qui lui a été révélée, et qu'il lui faut dorénavant viser la perfection, telios, à savoir la maturité spirituelle. Autrement dit, il lui faut graduellement devenir conforme à ce que Dieu attend de lui. S'il a atteint le degré de conversion que Dieu requiert de lui, il deviendra un être spirituel au retour de Christ, à la septième trompette, soit par une résurrection, soit par une transformation instantanée. Ce concept de télios, selon lequel il nous faut mûrir spirituellement pour devenir tel que Dieu le requiert de nous, apparaît en beaucoup d'endroits dans les Écritures. Ainsi, dans Colossiens chapitre 3, verset 12, il est dit, Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Notez que nous sommes des élus de Dieu. Comprenez-vous toute l'importance de ces paroles? Cela signifie que votre appel vous vient non pas de Jésus-Christ, mais de Dieu le Père en personne, l'empereur de l'univers. Télios nous vient de la nourriture solide de la parole. C'est l'amour qu'il nous faut développer pour refléter l'Esprit de Dieu. Nous devons le faire croître en mettant en pratique la loi de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de le faire croître qu'en observant la loi de Dieu de tout notre cœur. Pour cela, il nous faudra nous soumettre totalement à sa volonté, ce qui nous amènera automatiquement à vivre le genre de vie qui fera de nous des êtres bons et miséricordieux, des individus qui auront à cœur de supporter l'œuvre du Dieu vivant à laquelle il nous aura associés. Tant de faux prédicateurs, jadis et encore maintenant, n'ont pas vraiment d'œuvre à proprement parler. De ce point de vue, ils sont en rébellion, ce qui est contraire au concept de Télios. Que pensait Jésus au sujet de la nourriture solide de la parole? Voyons-le dans Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voilà ce qui constitue notre nourriture solide. Jésus savait que la nourriture de la parole devait être d'obéir à Dieu inconditionnellement, tout en développant le caractère qui nous permettra de refléter l'Esprit de Dieu, afin qu'il puisse nous accorder la vie éternelle dans sa famille. Voyez-vous, la nourriture solide enrichit Jésus-Christ et l'aida à mieux comprendre tout ce que cela impliquait d'être obligé de se soumettre aux pressions négatives de Satan et de tous ces êtres humains qui subissent son influence. Il en a été question au chapitre 2 du livre aux Hébreux que nous avons lu précédemment. Jésus allait devenir Télios, parfait, et atteindre une parfaite maturité à la suite de toutes ces choses qu'il aurait à apprendre et à souffrir pour nous, même si au départ il était sans péché. C'est ce même Jésus dont Dieu le Père se sert à présent pour amener beaucoup de fils à la gloire. Oui, c'est là notre destinée, la raison de notre appel. Nous ne sommes pas appelés à devenir des anges, comme certains le prétendent, mais des êtres divins, des membres de la famille de Dieu. Voilà qui est au cœur de l'Évangile. Ceci ne constitue pas une nouvelle compréhension cachée, ni un point obscur qui n'aurait aucune incidence sur notre salut. Qu'est-ce que la nourriture solide de la parole, sinon la mise en pratique des instructions et des lois de Dieu et de Christ, qui nous amènent à développer le caractère qui sera essentiel pour qui veut être dans le royaume? Il est donc clair que Jésus a continué d'apprendre par les expériences qu'il vécut, même s'il avait été aux côtés du Père depuis le début, et qu'il fut celui par qui Dieu créa toutes choses. Selon le livre aux Hébreux, il apprit ce que c'est d'être sous pression, en particulier lorsque l'obéissance le conduira à la mort sous la torture. Ce qui nous amène à poser cette question. Pourquoi permet-il que ses élus, ses appelés, soient soumis à des épreuves, des tests et des difficultés? Pourquoi, au cours de l'histoire de l'Église, le peuple de Dieu rencontra-t-il autant d'épreuves? Ne pas pouvoir répondre à cette question pourrait nous empêcher de faire la différence entre le lait et la nourriture solide de la parole. Étant le peuple de Dieu, nous pouvons certainement compter sur ses bénédictions et son soutien. Mais il nous est impossible de nous soustraire à l'influence de Satan, car, pour l'instant, il est encore en charge de cette planète. Nous ne pourrons être amenés à la perfection, télios ou maturité spirituelle, que si nous pouvons prouver à Dieu que nous lui resterons loyaux et fidèles, peu importe que les choses aillent bien ou non. Il nous faut lui montrer que nous plaçons sa voix et les grandes promesses de l'Évangile au-dessus des choses matérielles de cette vie. Comme je l'ai déjà dit, Jésus a dû apprendre à rester loyal et fidèle et ne pas céder au découragement durant toutes ces choses qu'il eut à souffrir. Cela n'a pas dû être facile pour lui. Mais nous savons qu'il ne céda pas au découragement. Il ne suffit pas de connaître la loi et de l'observer superficiellement, si l'on veut atteindre la pleine maturité spirituelle. Notez ce commentaire de Paul dans Hébreux 7, verset 19. Hébreux 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une nouvelle espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. L'obéissance nous rapproche de Dieu. Elle élimine la barrière qui, autrement, nous séparerait de lui. Le fait de connaître la loi ne suffit pas pour nous amener à la maturité spirituelle. Mais cela nous informe des normes à suivre. Les Écritures nous disent que nous ne connaîtrions pas ce qui est péché si la loi ne nous en informait. Seule la loi de Dieu nous permet de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. La loi établit des normes. Ne vous laissez pas séduire. Il y a des absolus en ce qui concerne le bien et le mal. Les lois cérémonielles, les sacrifices qu'on offrait, n'avaient d'autre but que de nous enseigner, à nous les humains, à quel point nous avons besoin d'un sauveur et quel est le prix du péché. La loi divine, lorsqu'on s'appuie sur elle, guide nos pensées et nos actes, si bien qu'avec le temps, nous commençons à penser comme Dieu. Voilà ce que c'est la maturité spirituelle, tellios, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui nous permet de distinguer entre le bien et le mal. Nous nous appuierons sur la loi, mais encore faudra-t-il faire le bon choix. La nourriture solide de la parole est ce qui nous permettra de prendre une décision éclairée qui convaincra Dieu de l'authenticité de notre conversion. Donc, au début, Dieu va ouvrir notre esprit à la compréhension de la vérité. Puis, lorsque nous agirons sur la base de cette compréhension, nous pourrons recevoir son Saint-Esprit. Après que nous aurons fait acte de repentance, que nous aurons été baptisés et que nous aurons reçu l'imposition des mains par un ministre de Dieu. Dieu continuera alors de travailler avec nous si nous nous soumettons sincèrement à lui, et il devra, chemin faisant, nous soumettre à quantité de tests pour observer notre réaction. Veuillez maintenant vous tourner vers Deutéronome 8, verset 2, où Dieu fait dire à Moïse: « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Oui, Dieu les avait testés. Plus loin, au verset 16, il ajoute « Qui t'a fait manger dans le désert, la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Il les avait donc testés et il continue de le faire avec nous. Il faut s'y attendre et même s'en réjouir. Car 1 Pierre ne dit-il pas, 1 Pierre chapitre 1 verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui, Dieu doit nous tester présentement, mais nous serons récompensés au retour de Christ si nous passons ces tests. Voyons aussi Jacques chapitre 1 verset 2. Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je dois admettre que cela me pose encore quelques difficultés. Mais considérons la suite. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. À nouveau, notez les termes parfait et accompli, tellios. Autrement dit, Dieu veut nous voir agir. Si nous développons cette volonté de lui obéir en toutes circonstances, nous faisons usage de la nourriture solide de sa parole. Considérons à présent comment Dieu éprouva un de ses serviteurs du passé, Job. Job avait été testé durement, et cela parce que Dieu voulait le rendre parfait, tellios. Dieu aimait Job, mais comprenait qu'il n'était pas prêt pour la première résurrection dans son état actuel. À cause de son amour pour lui, il se vit alors obligé de le perfectionner. Un point que j'aimerais souligner, c'est que même si Job montrait beaucoup de foi durant ses épreuves, il y a une différence entre foi et croyance. Ainsi, Jacques ne dit-il pas, vous croyez en Dieu? C'est bien, mais savez-vous, Satan croit aussi en Dieu. Il l'a vu, il l'a rencontré, et il lui a parlé. Donc, en ce sens, il ne doute pas. Il croit en son existence. Il n'empêche que Dieu n'a pas beaucoup d'éloges à lui faire. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La foi en elle-même ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une foi qui mène à l'obéissance, comme la Bible ne cesse de le répéter. Notre désir d'obéir à Dieu est le véritable indicateur de notre foi. C'est cela qui révèle à Dieu notre degré de maturité spirituelle. Et nous devons la renforcer en faisant usage de la nourriture solide de la parole de Dieu. Voyons aussi Hébreux 11, verset 17. Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Abraham ne faisait pas seulement croire en Dieu, il passa aux actes. Il indiqua à Dieu qu'il était prêt à lui obéir, peu importe ce qu'il exigerait de lui. Il passa le test avec brio. Oui, il était prêt à accorder la préséance à Dieu, même s'il lui fallait pour cela sacrifier l'être qui lui était le plus cher au monde. Le livre aux Hébreux mentionne beaucoup de gens que Dieu considère comme des héros, des gens qui, en fin de compte, purent mener une vie abondante. Mais on y parle aussi de certains héros qui furent persécutés, en particulier l'un d'entre eux, probablement Isaïe, qui fut scié en deux par le roi Manassé. Voyons Hébreux 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ces témoignages doivent être précieux à nos yeux. Ainsi, pour certains d'entre eux, leur dernier test en vue d'atteindre la maturité spirituelle fut horrible. Pour certains d'entre nous aujourd'hui, ce sera peut-être la maladie, voire la mort, qui sera le test. Allons-nous alors rester fidèles et ne pas nous mettre à penser que Dieu nous a abandonnés? Dieu n'avait pas abandonné Ésaïe. Ésaïe va être ressuscité. Tous ces martyrs dont il est question dans le livre aux Hébreux n'ont pas été abandonnés. Ils ont été amenés à la perfection. Lorsqu'on reste fidèle à Dieu, qu'on continue à observer sa loi, qu'on garde la vision, qu'on poursuit la mission qui nous est donnée individuellement et collectivement, on fait usage de la nourriture solide de la parole. Voyons à présent Jacques, chapitre 2, verset 21. Jacques, chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois, verset 22, que la foi agissait avec ses œuvres, et que, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Il importe que nous le comprenions, et c'est ce que Jacques s'efforce de nous expliquer, à savoir qu'un homme sera justifié par ses œuvres, et non uniquement par sa foi. La foi seule n'est donc pas suffisante, elle doit être accompagnée d'œuvres. Cela est corroboré par Jean dans 1 Jean chapitre 2 verset 5, où il est dit « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. » Oui, l'amour de Dieu est véritablement rendu parfait quand ceux qui lui obéissent, ceux qui font ce qu'il leur est demandé, peu importe les circonstances. C'est ce que les églises du temps de l'apôtre Paul avaient oublié. Et c'est pourquoi il se sentit obligé de leur écrire à propos du lait et de la nourriture solide de la parole. Et cela nous sert simultanément d'avertissement à nous qui sommes parvenus à la fin de l'âge. La même exhortation nous parvient aussi par le biais de cette lettre aux Colossiens. Voyons-la, dans Colossiens chapitre 1 verset 28. Colossiens chapitre 1 verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Un des messages clés que Paul s'efforçait alors d'adresser à toutes les églises qui étaient sous sa juridiction, c'était que l'entrée dans la famille de Dieu requiert de notre part du travail, des sacrifices, ainsi que beaucoup d'efforts et de courage. Nous devons nous efforcer d'être en harmonie avec la pensée de Dieu. Ce message, encore une fois, constitue la nourriture solide de la parole, contrairement à ce que certains détracteurs veulent nous faire croire. Paul utilise la même terminologie dans un message qu'il adresse aux Corinthiens, une église qui semble manquer singulièrement d'éléments convertis. Voyons-le dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il leur reproche de ne pas appliquer la parole de Dieu dans leur vie quotidienne. Le lait de la parole correspondrait à la connaissance de base en matière spirituelle. La nourriture solide de la parole devant être son application. Ce que Paul cherche à leur faire comprendre, c'est qu'en ne surmontant pas le péché, ils se privaient de la nourriture solide que Dieu accorde à ceux qui surmontent les pressions qui nous viennent de ce monde, afin de nous amener à vivre et à penser selon les voies de Dieu. Cela dit, certains pensent que la nourriture solide de la parole correspond plutôt à de nouvelles doctrines excitantes et de nouvelles interprétations données à certains passages des Écritures. Ceux qui pensent ainsi devraient s'interroger à propos de leur conversion, car ils semblent ignorer la raison de leur appel et la raison d'être de l'Église. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que toute allusion à la nourriture solide de la parole doit toujours être considérée dans le contexte d'une perfection de notre caractère. Il y sera question de lutter et de vaincre le péché, ainsi que les tentations de ce monde. Tout cela dans une totale soumission à Dieu et dans le but de viser la perfection qui est associée au terme télios. Oui, il nous est possible de devenir semblable à ce melon mûr à point et d'atteindre ce degré de maturité spirituelle qui est requis de nous et qui nous permettra de naître dans la famille et le royaume de Dieu. Avant de connaître l'Église, j'étais dans les forces armées, et je me souviens de ces jours, de ces semaines, et de ces mois consacrés à des exercices répétitifs, et de cet entraînement ardu et rigoureux auquel on nous soumettait. Un tel entraînement peut, à juste titre, être considéré comme une épreuve, mais il permettra à votre commandant de noter ceux qui sont assez disciplinés pour accepter ces difficultés avec une bonne attitude, tout en affichant un désir constant de supporter leur groupe. C'est en de tels individus que le commandant pourra placer sa confiance. Celui qui va peut-être se montrer vaillant lors des parades militaires, mais qui, en d'autres temps, rechignera à la tâche, surtout lorsqu'un grand effort sera exigé, celui-là ne mérite pas d'être retenu, car il peut devenir un risque pour la compagnie. Il en est de même pour un soldat de Christ. Donc, ne rechignons pas devant la tâche que Dieu nous assigne. Prenons Christ pour exemple. Comme lui, acceptons d'accomplir la volonté de Dieu en nous appropriant la nourriture solide de la parole. Ne nous laissons pas dévier de la course par des peccadilles, de vaines spéculations en matière de prophétie, ou encore la démangeaison de savoir à quel moment débutera la grande tribulation. Posons-nous plutôt la question, vais-je tenir ferme? Si c'est non, alors tout le reste importe peu. Ne nous soucions pas tant de sauver notre peau lorsque débutera la grande tribulation. Dieu prendra soin de nous. Pour lors, il nous faut affermir le caractère que Dieu attend de nous, maintenant qu'il nous a appelés, et faire notre part dans l'œuvre de Dieu. Il s'occupera du reste et veillera à compléter notre compréhension sur les points qui nous sont encore flous. Acquérir la vérité est une tâche ardue. Il est bien plus aisé de prêter l'oreille au chant de sirène que vous feront entendre certains individus qui se hasardent dans des spéculations qui n'ont pas d'assise solide. Ne vous laissez pas envoûter par leurs discours. Notre tâche est bien plus difficile en comparaison. Consacrez-lui toute votre énergie. À l'instar d'un soldat qui s'entraîne des mois durant pour une bataille, nous aussi préparons-nous à satisfaire aux critères que Dieu nous a fixés et attend de nous voir remplir. Depuis que Dieu nous a appelés et que nous nous efforçons d'extirper le péché de nos vies, il importe que nous adoptions sa voie et que nous nous soumettions pleinement à sa volonté. Lisons ce que Paul, un apôtre de Christ, dit à propos de la lutte qu'il dut mener lui aussi. C'est dans Romains 7, verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Satan veut notre perte, notre mort, mais Dieu ne lui permettra pas de nous terrasser. Néanmoins, il s'efforcera par tous les moyens à sa disposition de nous amener au point où nous allons nous-mêmes nous attirer la condamnation. » Verset 22. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Évidemment, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, ceci ne doit pas être une excuse pour continuer dans le péché. Il nous faut lutter contre une telle tendance, et Dieu nous donnera la force pour y arriver. Paul savait ce qui était en jeu. C'est pourquoi, s'appuyant sur la parole de Dieu et le soutien du Saint-Esprit, Paul, après beaucoup d'efforts, finit par remporter la victoire, même s'il fut en fin de compte décapité. Il resta fidèle à Dieu jusqu'à la fin en montrant une bonne attitude. Ceux qui veulent nous faire croire que la nourriture solide de la parole consiste en toutes sortes de nouvelles doctrines excitantes et de nouvelles compréhensions ne font qu'afficher leur manque de compréhension des Écritures et de la raison de notre appel. Pour le mot de la fin, laissons Paul nous dire ce qui importe vraiment. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il est question ici de l'amour de Dieu, agapé en grec. Cet amour décrit le caractère de Dieu. Il se traduit par sa façon de vivre. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le fait de pouvoir prophétiser, même de pouvoir prédire le résultat d'une élection, n'est pas si important. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En effet, si je ne suis pas ressuscité lors de la première résurrection, à quoi servirait tout cela? Si nous ne parvenons pas à développer le caractère de Dieu, tel que révélé par l'esprit de la loi, nous ne sommes rien. Voilà ce qu'il veut dire. Si Dieu jugeait que nous ne sommes rien, nous finirions par une mort rapide dans les temps de feu. Après ces paroles, Paul nous montre que le fait de devenir parfait, tellios, est vraiment le but de notre appel et de la nourriture solide de la parole. Peut-être que Michée résume assez bien ce que nous avons abordé aujourd'hui avec ces mots tirés de Michée chapitre 6 verset 8. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, la nourriture solide de la parole de Dieu consiste à agir selon la loi, ce qui fera de nous un individu miséricordieux qui reflétera le caractère divin et qui servira Dieu avec humilité et sans réserve, tout en supportant l'œuvre qu'il accomplit ici-bas. En agissant ainsi, nous serons admis dans son royaume. Accomplissons son œuvre, supportons-la avec zèle, aidons à propager l'évangile du royaume. Édifions le caractère de Jésus-Christ. Si nous y mettons du zèle, nous deviendrons tellios.